C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, que s'est-il passé? Comment l'humanité, née il y a 3 millions d'années dans la corne de l'Afrique, a-t-elle pu devenir une espèce aussi destructrice de son environnement? Nous sommes nombreux et avec nos activités, nous sommes en train de remettre en cause l'habitabilité de la seule planète habitable dans le coin, la Terre. Comment trouver un second souffle? Que faut-il changer et en sommes-nous capables? C'est sûr que si nous nous basons sur les résultats de la COP26 qui s'est terminée à Glasgow le week-end dernier, il y a de quoi douter, mais nos invités ont une réflexion stimulante qui, comme ils l'écrivent, peut nous inspirer et honorer cette volonté de puissance qui nous caractérise pour créer et non plus détruire.
C'est pas du vent sur RFI.
May I just say to all delegates, I apologize for the way this process has unfolded. And I'm deeply sorry.
Deeply sorry. Il était tellement désolé, Alok Sharma. Mais ne riez pas, Dominique Vourc. C'était un moment tragique.
Oui.
Le président de la COP26 devait finalement accepter une décision finale. Le pacte de Glasgow, pas à la hauteur des immenses défis qu'implique le changement climatique en cours. Alors peut-être qu'en lisant le livre de nos invités, il retrouvera le sourire. Primauté du vivant, essai sur le pensable. C'est le titre de cet ouvrage publié aux presses universitaires de France par vous, donc Dominique Bourg, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe des sciences et vous êtes en studio avec nous et en ligne depuis Genève, en Suisse. Sophie Swatton, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, économiste, vous enseignez à l'Université de Lausanne, vous présidez la Fondation Zoen, dont Dominique Bourg est le président du conseil scientifique. Donc voilà, vous travaillez ensemble, vous écrivez bien d'ailleurs dès le début du livre que c'est une pensée commune de bout en bout. Et donc, vous avez tous les deux écrit ce livre pour... c'était un livre un peu complexe, il faut se concentrer pour le lire, mais qui stimule la réflexion, je le disais. Mais tout d'abord, j'aimerais vous entendre sur cette actualité. J'aimerais avoir votre réaction aux conclusions de la COP26 qui vient de s'achever, à ces larmes du président. Enfin, larmes, faut pas exagérer, disons.
Émotion.
Voilà, Dominique Bourg.
Écoutez, il arrive ce qu'il arrive après chaque COP, c'est-à-dire que les émissions continuent d'augmenter. Pour celle-ci, on s'attend à 2030, par rapport à 2010, qu'elles aient augmenté de 14%. Alors qu'en fait, le choix raisonnable aurait été de les réduire de 45%. Donc on est effectivement très loin du compte. Et surtout, ce qui est compliqué, c'est-à-dire plus les COP avancent, plus on se donne des engagements sévères, mais pour un temps très lointain, sans que rien dans les années qui suivent ne les crédite. Donc ça, c'est assez inquiétant, même si par ailleurs, il y a quand même l'avancée d'un processus. Pour la première fois, on a parlé de limiter et d'arrêter un jour les fossiles, c'est quand même quelque chose, et de ne plus les financer, même si on ne le fait pas. Voilà, il y a des petites avancées, si vous voulez, mais qui par rapport à l'urgence de la situation, paraissent bien maigres.
Sophie Swatton, est-ce que vous avez suivi cette COP26 et que pensez-vous de ses conclusions?
Je partage ces conclusions. C'est toujours un peu décevant, effectivement, même si des mots sont prononcés. On reste un petit peu avec un goût amer, même si on essaie d'être positif et de voir des évolutions. Ça reste quand même toujours un peu décevant.
Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est que les conséquences du changement climatique sont de plus en plus oppressantes. Canicules, sécheresses, méga-feux, inondations violentes. Et pour le chercheur François Gémen, il va falloir s'y habituer. Il répond à nos collègues de l'émission C'est Politique sur France 5.
La notion de crise, c'est-à-dire que la notion de crise renvoie inévitablement à une période éphémère qui annonce, qui porte en elle l'idée d'un retour à la normale. On parle de crise sanitaire parce que chacun espère évidemment que le Covid sera bientôt derrière nous et qu'on pourra reprendre une activité parfaitement normale. Et je pense que beaucoup de gens s'imaginent encore que si nous agissons radicalement pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, on pourra revenir à la normale, on pourra vivre à nouveau comme avant et qu'on va retrouver le climat que nous connaissions il y a 20 ou 30 ans. Et je pense que beaucoup ne se rendent pas compte que le changement climatique que nous avons engagé, il est irréversible. Et que donc même dans le scénario le plus optimiste, les températures ne vont pas baisser avant la fin du siècle et les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ne vont certainement pas baisser. La plupart des gaz à effet de serre qui sont dans l'atmosphère à 20 km au-dessus de nous ce sont des gaz que nous avons produits au siècle dernier, voire au siècle d'avant. Et donc, il n'y aura pas de retour à la normale. Et ça implique que les mesures que nous devons envisager pour lutter contre le changement climatique, je pense que ce n'est pas des mesures de crise, ce n'est pas des mesures temporaires d'état d'urgence, c'est une vraie transformation profonde du politique. La question, c'est comment est-ce que nous allons apprendre à gouverner ce changement climatique et de quelles cartes est-ce que nous allons nous doter ?
Voilà, donc une petite leçon de vocabulaire au passage. On ne parle pas de crise climatique parce que ce n'est pas ponctuel, Dominique.
Non, alors moi, ça fait 10 ans que je le dis, je l'ai écrit en long et en large. Non, il n'y a pas de crise climatique. Que la chose soit très claire. On est dans une bascule. Et en fait, si vous voulez, en termes de température beaucoup plus élevée, d'événements extrêmes, on est parti pour des siècles, voire des millénaires. C'est-à-dire qu'on a compris seulement au début des années 2000, si vous voulez, que la durée théorique d'un siècle, un siècle et demi d'une molécule de CO2, ben non, elles sont remplacées. Et en fait, on a changé, si vous voulez, des équilibres entre des stocks et des flux. Et c'est parti pour une durée très longue. Et comme vous le savez, le dérèglement climatique sera prochainement la première cause de destruction de la biodiversité. Et là, ce n'est même pas les siècles et les millénaires, c'est les millions d'années. Donc non, c'est une véritable bascule. Il faut absolument comprendre ça.
Sophie Swatton.
Oui, et je dirais, puisqu'on parle de vocabulaire, il y a un mot qu'on n'entend pas, c'est celui d'anticipation. On parle beaucoup d'adaptation, de réparation, mais on n'est absolument pas dans une logique d'anticipation qui, elle, pourrait permettre une transformation qui est évoquée par François Gemène. Et c'est ça qui est toujours gênant. C'est dans la représentation que l'on peut se faire de notre système politique, mais lui-même inclus dans une représentation de la nature, avec un grand N, si j'ose dire, une représentation plus systémique, plus large de notre lien au vivant, de notre lien à la Terre, de notre lien aux humains et aux vivants en général.
Alors justement, c'est tout l'objet de votre livre, hein, une nouvelle façon de penser le monde que vous conceptualisez. Nous en parlons juste après un moment de bonheur pour se remettre un peu de cette tristesse climatique. Un moment de bonheur avec Bob Dylan. Long time ago, he saw an animal that liked to growl. Big furry paws and he liked to howl. Great big furry back and furry hat. I think I'll call it a bear. Man gave names to all the animals in the beginning. Man gave names to all the animals in the beginning, long time ago. He saw an animal upon a hill, chewing up so much grass until he was filled. He saw milk coming out, but he didn't know how. I call it a cow. Man gave names to all the animals in the beginning. In the beginning, man gave names to all the animals in the beginning. Long time ago, he saw an animal that liked to snort. Horns short. It looked like there was nothing that he couldn't pull. I think I'll call it a bull. Man gave names to all the animals in the beginning. He saw an animal leaving a muddy trail. Real dirty face and a curly tail. He wasn't too small and he wasn't too big. I think I'll call him a pig. Bob Dylan, man gave name to all the animals. L'homme a donné un nom à tous les animaux dans C'est pas du vent sur RFI.
There is no planet B.
C'est pas du vent.
There is no planet blah.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Blah blah blah, blah blah blah.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Net zero by 2050, blah blah blah, net zero, blah blah blah, climate neutral, blah blah blah.
Donner un nom à tous les animaux, c'est peut-être là que commence le problème. Nous en parlons avec les philosophes Dominique Bourg et Sophie Swatton qui viennent de publier « Primauté du vivant », essai sur le pensable aux presses universitaires de France. Dominique Bourg, le langage, c'est un outil extrêmement important. Et la façon dont on nomme les choses nous aide à concevoir le monde. Vous en parlez dans ce livre.
Oui, tout à fait. L'appréhension humaine du monde, elle passe effectivement par les mots. Et il semblerait bien que dans nos cultures, on ait connu une évolution très forte. Alors, on ne le redit pas dans ce livre-là, mais c'est ce qu'avait développé David Abraham dans « Comment la nature s'est tue », où il rappelait comment l'acquisition de l'alphabet par les Grecs, donc l'alphabet, ça permet, si vous voulez, de lire un mot, de le lire immédiatement sans même connaître sa vocalisation, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, l'écriture, elle enferme la voix. Elle permet immédiatement de restituer la voix. Et ça a permis une espèce de pas énorme dans l'abstraction. C'est-à-dire qu'en fait, les Grecs se sont mis à penser qu'il existe des essences au-delà des choses que l'on ressent et que l'on voit, et qu'il existe une espèce de monde à part, pensez hein, aux idées de Platon. Et donc, il existe un monde abstrait dont le monde sensible n'est qu'une pâle copie. Et en fait, c'est par là même, on a franchi un seuil d'abstraction énorme, et c'est une des étapes qui nous a amené à cette distance très profonde, alors qui caractérise notre culture occidentale par rapport à la nature.
Oui, Sophie Swatton, donner un nom, par exemple, aux animaux ou aux plantes, c'est déjà finalement créer une distance.
Oui, complètement. C'est une distance qui est utile pour notre cerveau, pour notre partie rationnelle, pour essayer de comprendre, d'expliquer, de nommer les choses en les mettant à distance pour mieux se les approprier. C'est exactement la même chose pour notre espace, pour le temps que l'on dissèque, que l'on découpe en heures, en minutes, en secondes. Mais je dirais que cette fiction créatrice, quelque part, ne doit pas peut-être occulter une autre dimension, beaucoup plus symbolique, première, de la vision de l'objet, de la plante, de l'animal, dans sa globalité. Et c'est peut-être ça que l'on a oublié vers une dimension de plus en plus abstraite, conceptuelle, mais qui finalement peut se déconnecter de l'objet premier, de lui-même, et de perdre peut-être, alors dans une vision non essentialiste, mais quand même, de perdre, j'ai osé le mot, la substance, en quelque sorte, et la nature profonde de ce qui pourrait être développé dans un lien plus fort. Par exemple, le temps, on peut le restituer dans une dimension plus large, une durée intérieure. Et le temps, ce n'est pas simplement des minutes découpées, c'est aussi une dimension plus subjective. Et cette dimension-là, on l'a occultée, et au point de ne plus voir que des rapports de domination, d'emprise, en oubliant une fluidité en fait dans le mouvement, et au-delà de nommer les choses en fait. Une fluidité que reprend très bien d'ailleurs David Abraham dans la dimension symbolique, dans les sons, dans le rapport à l'invisible. Quelque chose de beaucoup plus subtil que la seule découpe, nécessaire certes, mais non suffisante pour comprendre la complexité de la réalité.
Mais récemment, on s'est rendu compte, Dominique Bourg, que l'outil, le langage et la culture ne seraient pas le propre de l'homme uniquement.
Alors non, la communication est inhérente au vivant. Et tous les vivants ont des systèmes de communication. Mais simplement, ce qui caractérise, si vous voulez, le système humain de communication, c'est qu'il n'est pas simplement relationnel. Il permet aussi une forme de description du réel. Et en fait, quelque part, nous sommes des animaux ontologiques. C'est-à-dire qu'on a vraiment une passion pour les choses. Et ça caractérise vraiment l'humanité. Et c'est évidemment pas sans lien avec notre pouvoir de transformation. Mais si on revient à cette première distance par l'abstraction grecque, par l'invention par les Grecs de l'alphabet, c'est très abstrait l'alphabet. Ça vous permet, si vous voulez, c'est un système où on a isolé les voyelles des consonnes. Or, une consonne, ça ne se prononce pas. Vous êtes obligé de dire ni, na, nuno, tout ce que vous voulez, mais ça marche pas. Hein. Et donc, les Grecs ont su faire ça, et c'était un pas extraordinaire. Mais maintenant, et c'était le premier élan pour une culture de l'abstraction, avec précisément ce qui est au cœur de ce livre, c'est-à-dire le mécanisme et sa critique, le mécanisme nous a amené à penser que finalement, il fallait, pour comprendre le monde, se défaire des qualités sensibles, les mettre à distance, et imaginer que tout n'était qu'un choc de particules d'inerte sans sens, et qu'on pouvait décrire, formaliser avec des équations. Enfin, quand on pense à ça, et qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a une destructivité assez folle, c'est pas tout à fait un hasard.
Mais heureusement, on évolue. Hein,
Dieu merci. Et c'est ce qu'on montre dans ce livre aussi.
Voilà, c'est ce que vous montrez dans ce livre.
Amène son dépassement.
Voilà, et aujourd'hui, face à la destruction du vivant qui nous entoure, on se pose des questions. Grâce au progrès de la science aussi, on comprend mieux les choses. On comprend par exemple, en effet, que les animaux, ceux qu'on appelle les animaux, ont des facultés très proches de celles des hommes. Et les plantes aussi, beaucoup plus récemment. Stefano Mancuso est professeur à l'Université de Florence en Italie. Il a fondé, lui, un concept qui est un peu discuté, mais quand même, le concept de neurobiologie végétale. Il a publié La révolution des plantes, comment les plantes ont déjà inventé notre avenir. C'est publié chez Albin Michel.
L'intelligence des plantes, ça dépend comment elle se définit. Alors nous, on définit toujours comme l'intelligence, comme quelque chose qui regarde seulement nous les hommes, ou à la limite quelques animaux qui nous ressemblent un peu, qui sont proches, très proches de nous. En fait, l'intelligence est la capacité à résoudre des problèmes. Et alors, si nous regardons à la vie entière de ce point de vue, nous comprenons que tous les êtres vivants doivent être intelligents. Et dans le cas des plantes, elles le sont particulièrement. Cela a été démontré en faisant la conquête de l'entière planète. 97,7% de la vie par rapport aux 0,3% des animaux, c'est la donnée réelle qui nous explique leur réel succès aussi de ce point de vue.
Alors tout dépend, comme vous le dites, de ce que l'on entend par intelligence. Vous dites les plantes ont de la mémoire, elles sont capables de communiquer, elles ont des stratégies de défense.
Oui, bien sûr. Les plantes ont tout cela et elles ont davantage. Toutes ces capacités et caractéristiques des plantes sont connues très longtemps. D'autres sont des découvertes scientifiques récentes. Par exemple, le fait que sont en manière de mémoriser et d'apprendre, c'est quelque chose qui est très neuf. Mais quand on voit ces capacités, on comprend que les plantes n'ont rien à envier aux animaux. Elles sont une forme de vie différente. Pour la comprendre, nous ne devons pas regarder les plantes comme si elles étaient des animaux qui manquent quelque chose. Mais sont une forme de vie différente qui a réussi à atteindre les mêmes résultats, mais par un chemin différent.
Alors, dans vos livres, vous donnez des exemples pour expliquer cette intelligence des plantes. Vous expliquez, par exemple, que les plantes se parlent. Et là, on peut prendre des exemples concrets. Vous citez la tomate ou le haricot de Lima.
Cet haricot de Lima est un haricot très différent de celui qu'on utilise pour manger ou celui qui est sauvage, qui pousse dans la forêt. Il a donc toutes les capacités encore que les plantes domestiques perdent. Ce haricot de Lima, quand il est attaqué par un insecte qui commence à manger les feuilles, il envoie des messages qui rappellent l'ennemi de cet insecte, une guêpe qui l'attaque et qui le tue en fait. Et donc il met en acte une vieille stratégie aussi humaine qui dit que l'ennemi de mon ennemi est mon ami.
Et voilà comment une plante peut appeler au secours un autre insecte. C'est quand même assez fascinant, ça, Dominique Bourg. Et ça nous sort complètement de ce que vous appeliez la vision mécaniste.
Oui, dans la vision mécaniste, les plantes sont des machines comme les animaux. Non, ce qui me gêne, moi, dans l'expression de Mancuso, c'est son idée de neurobiologie végétale. Parce que précisément, ce qui est caractérise les plantes, et c'est ça qui est fascinant. Et c'est beaucoup plus proche de ce qu'on essaie de raconter. Ce qui caractérise les plantes, c'est qu'elles n'ont pas de neurones, elles n'ont pas de synapses. Et pourtant, par exemple, elles sont capables de reconnaître des formes. Et c'est des exemples très connus, très anciens. C'est par exemple le papillon Helicoenus, qui a compris que... Enfin, plutôt la plante sur laquelle il va pondre pour sa chenille, elle a compris que ce papillon est attiré par la forme de ses feuilles. Et en fait, elle arrive à changer la forme de ses feuilles pour que le papillon ne la reconnaisse pas. Un autre exemple, c'est les fleurs d'Ophrys qui vont par exemple prendre la forme d'une abeille pour attirer une autre abeille qui va venir avec des gamètes mâles et qui va pouvoir non pas féconder comme elle le croit une autre abeille, mais la plante elle-même. C'est la faculté qu'ont les arbres de pousser droit. Hein, et quand on reproduit ça avec un modèle numérique, on a le système des serres, on a ensuite la perception de la gravité avec des petits grains d'amidon dans certaines cellules qui jouent le même rôle que l'oreille interne, mais il y manque quelque chose. Et si on veut qu'un modèle numérique pousse droit, il faut lui ajouter la perception de sa forme en rapport avec l'espace. Or, aucun arbre n'a les organes qui lui permettent d'apprendre sa forme. Et là, on est sur quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, oui, effectivement, il y a une forme de pensée, alors à ne pas comprendre comme les représentations qui sont les nôtres, il y a une forme de pensée propre au végétal, il y a une agentivité qui est propre au végétal, mais précisément qui n'est pas du tout du même ordre que l'animal. Alors, on va nous en saisir des indices, mais justement, c'est pas du tout de la même manière. Et ça, pour essayer de le comprendre, il faut reprendre le présupposé dont on part dans ce livre. C'est-à-dire qu'en fait, la pensée, c'est une donnée première, tout autant que la matière. Et ce que vous pourrez faire dans le monde animal, c'est montrer qu'il y a une forme de parallélisme. Mais vous aurez toujours d'un côté une réaction chimique, et de l'autre, pour la pensée humaine, des représentations. Et donc, c'est ça qui est gênant, c'est dans l'expression de neurobiologie. Hein, c'est qu'elle... pourtant, lui-même dit que c'est très différent du monde animal, mais avec cette expression, il rabat par ces termes, et ça, c'est critiquable.
Oui, c'est critiquable, mais ça reste, cela dit, extrêmement intéressant. Sophie Swatton, c'est vrai que notre nouvelle vision, grâce au progrès des sciences, des rapports entre les animaux entre eux, entre les plantes entre elles, et entre les animaux et les plantes aussi, toutes ces interactions nous remettent un peu à notre place, nous les humains, au milieu de tout ça. Ça nous remet un peu en cause et puis ça nous incite à repenser notre façon de nous positionner dans le monde.
Oui, complètement. On touche là à une blessure narcissique un peu de l'humanité. Et d'oser prétendre que quelque part la matière peut penser avec des formes différentes, bien sûr, de celles de nos attributs classiques, mais qu'elle puisse émettre, qu'une plante puisse émettre des stratégies d'anticipation, de elle-même se transformer, de produire des substances pour pouvoir attirer tel ou tel insecte, c'est quelque part dire que la plante pense. Et effectivement, c'est dérangeant. C'est dérangeant pour nous parce que ça pose aussi la question de la sensibilité, la question de la propre représentation que la plante ou l'animal peut avoir de son prédateur, en l'occurrence nous. Donc ça signifie qu'on n'est pas dans la relation, effectivement, une relation exclusive, mais dans une forme de réciprocité beaucoup plus large qui pose vraiment avec... quelque chose qui nous dérange, hein, cette idée de comment la plante se représente-t-elle nous-mêmes, comment elle y répond, comment elle pense aussi la manière dont on va se comporter avec elle. Alors, sans rentrer dans l'essentialisme, encore une fois, mais c'est, je dirais, philosophiquement, c'est ce qui nous a beaucoup troublés et qui nous oblige à sortir de ce paradigme mécaniste qui est beaucoup trop réducteur pour essayer de le repenser de manière plus large avec ce qu'on appelle, nous, le monisme réflexif.
Alors, les concepts sont un peu complexes, hein, mais qu'est-ce que c'est le mécanisme, Dominique Bourg, finalement ?
Alors, le mécanisme, il apparaît dans l'Antiquité. Pensez à Lucrèce, Démocrite, enfin bon. Mais les choses réapparaissent à la fin, disons, du XVIe siècle et vont s'imposer entre la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle. C'est vraiment une manière, mais complètement contre-intuitive et dans une certaine mesure nouvelle de poser le monde, c'est la nature. Ça n'est jamais que des particules matérielles sans intériorité, sans sensibilité, sans intelligence. Ce qui permet de comprendre les formes, c'est simplement des chocs, des contacts matériels avec, on pensait, la loi du mouvement dans un premier temps, ensuite la gravité universelle de Newton. Donc, n'est que machine. Les animaux ne sont que des machines, les plantes ne sont que des machines, et avec cette conception, le seul être qui n'en est pas, c'est l'être humain, parce que lui prétend être divin, être apparenté au divin. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que avec l'émergence de la science moderne, fin 16e, début 17e, on a un recouvrement entre l'avènement de la physique moderne et puis l'héritage de nos lectures de la Bible. C'est-à-dire qu'on avait fini par réduire le livre de la Genèse à Genèse 1, 26, 28. Vous êtes les seuls à avoir été créés à l'image, à la ressemblance du Créateur, et donc vous êtes appelés à dominer tout ce qui vit sur Terre. Donc en fait, les hommes participent de la transcendance divine, ils sont étrangers aux autres créatures, et c'est la raison pour laquelle ils sont appelés à les dominer. Et donc en fait, ce qui est très intéressant dans cette naissance de la civilisation moderne, à la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, c'est ce recouvrement entre la science qui est en train de naître, et puis finalement notre héritage biblique, et la manière dont on a fini par l'interpréter.
Et Sophie Swatton, ce qui est intéressant, c'est aussi la suite, c'est-à-dire qu'à force de considérer la nature comme des machines, et nous-mêmes, les humains, on se met à fabriquer des machines pour dominer cette nature, et le fait de fabriquer des machines crée tout un système, parce que ces machines, elles coûtent de l'argent, donc ensuite il faut gérer les flux monétaires, puis du coup il faut gérer les relations entre les hommes pour que ces flux soient équitables, enfin bon, on peut dire qu'à un moment il y a cette tentative, mais en tout cas ça donne la création des États, et c'est de là que part la civilisation occidentale, finalement.
C'est un gros quiproquo, mais dangereux, c'est-à-dire que c'est un quiproquo qui a autorisé, en termes simples, hein, mais l'exploitation de la nature comme un stock de ressources dans lequel on pouvait puiser indéfiniment, et un stock dans lequel la seule valeur qui compte, c'est une valeur utilitariste. Il n'y a pas de valeur intrinsèque, une valeur pour soi. Et donc, c'est pour ça que c'est un paradigme qui permet d'expliquer où on en est arrivé aujourd'hui et pourquoi on pense sans cesse pouvoir repousser les limites de l'exploitation, puisqu'il nous manque un code, une représentation, une nouvelle manière de se représenter le monde pour briser un petit peu ce quiproquo-là. Et on n'a pas d'outil théorique pour le penser. Il nous manque un imaginaire, il nous manque un cadre de pensée qui permette de renverser ce paradigme, même si on en voit des indices, on voit des critiques et on voit qu'émergent par les rapports scientifiques, par la science, par les nouvelles études sur les plantes dont on vient d'évoquer, qu'il y a peut-être une autre manière de percevoir cet ensemble de manière beaucoup plus fluide et non pas aussi dominatrice.
Voilà, et ce nouveau cadre de pensée, vous le conceptualisez justement dans votre livre. On en parle juste après ce que j'appellerais une leçon de lucidité avec le groupe canadien Les Cowboys Fringants. Ça s'appelle Plus Rien.
Il ne reste que quelques minutes à ma vie. Au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père et qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps on vivait au rythme des saisons et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Il ne reste que quelques minutes à ma vie. Au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Tout ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent, qui rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Ces nouveaux dieux ne reculant devant rien étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie. Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens. dans la panique ont déclaré l'état d'urgence quand tous les océans ont englouti les îles et que les inondations ont frappé les grandes villes. Et par la suite, pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies, les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages, on lisait la détresse. Les gens ont dû se battre contre les pandémies, décimés par millions par d'atroces maladies. Puis les autres sont morts. Plus rien. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Au fond, l'intelligence qu'on nous avait donnée n'aura été qu'un beau cadeau empoisonné. Car il ne reste que quelques minutes à la vie. Tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité, adieu l'humanité.
Plus rien. Dominique Bourg, les cow-boys fringants, qu'est-ce que ça vous inspire?
Beaucoup de choses, parce qu'en fait, ça fait penser à un argument qui date du début des années 70, qui est l'argument Routley-Valpelmoule, la grande philosophe australienne, et ils étaient mariés femmes pendant un certain temps de leur vie. C'est l'argument du dernier homme, c'est-à-dire qu'en fait, et à l'époque, années 70, début des années 70, c'est une pure fiction. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune dramatique dedans. On imagine la fiction qu'il y reste plus qu'un seul être humain, et il détruit tant qu'il peut la nature. Et l'idée, c'est que, alors même que, si vous voulez, aucun autre être humain n'en souffrira, puisqu'il est le dernier, il va mourir, ça nous scandalise. Et c'était l'argument qui permettait de montrer que la nature a une valeur intrinsèque. Or, aujourd'hui, on ne peut pas reprendre cet argument comme ça, parce que ce n'est pas simplement un argument. C'est-à-dire qu'effectivement, on est en train, par certains côtés, de détruire la vie sur Terre, de façon très mesurée, très, très statistique. Et si vous voulez, pour prendre une autre image, hein, Wittgenstein disait, ben voilà, on ne peut plus avoir de contact avec Dieu parce que notre civilisation a mis comme un voile de cellophane sur les choses. Ce n'est pas de la cellophane, les amis, c'est des milliards de tonnes de CO2, de béton, etc. On passe des idées de Platon, si vous voulez, aux machines dont vous avez parlé, à un monde artificiel qui est en train d'étouffer la vie sur Terre. Et vous connaissez la solution de Facebook, le métavers. Enfin, c'est quand même quelque chose.
Qu'est-ce que c'est que le métavers?
Alors, c'est l'idée d'amener les gens sur un monde virtuel. Puisque la Terre est en train de mourir, on va les distraire par un monde virtuel. Donc, à la fois, cette chanson, elle est vraiment très très belle. Elle reprend cet argument de Nero, mais dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. C'est-à-dire un contexte tragique auquel jamais l'humanité n'a été confrontée. Et songez à cette enquête qu'a publiée Lancet à la mi-septembre, où trois quarts des jeunes parle d'un avenir effrayant, plus de 60% se demandent si le genre humain va encore se perpétuer. C'est la question que pose cette chanson. Donc là, effectivement, les petits pas de la COP, entre nous, c'est grotesque.
Voilà, et bim, un petit coup de pied dans la COP au passage. Sophie Swatton, cette chanson, elle vous inspire aussi une certaine réflexion?
En fait, elle me conforte peut-être dans une croyance, à tort ou à raison, mais que on manque vraiment d'imaginaire et qu'on a qu'un imaginaire de destruction très technophile. C'est un petit peu ce qu'on nous propose. Et j'aimerais tellement que la science puisse aussi renouer avec sa dimension imaginaire, qui est quand même aussi à la base. On parlait des Grecs, toutes ces discussions sur la pensée et le langage. Est-ce que c'est le langage qui crée la pensée? Est-ce que la pensée se matérialise dans le langage? Mais la science se fait aussi par épistémologiquement aussi par une fonction d'imagination. Le savant, c'est pas, hein, il n'est pas simplement isolé dans sa tour d'ivoire. Donc, c'est comment redonner à ses imaginaires une pulsion, en fait, d'imagination pour la reconnecter à d'autres fonctions et de voir que la planète Terre, c'est pas qu'un stock de ressources, mais retrouver un peu cette dynamique, cette curiosité originaire pour avoir un imaginaire autre que celui de partir sur Mars.
Voilà, et bim, au passage, Elon Musk, on pense à vous. Donc, dans votre livre, ce qui est quand même, je le disais au début, on va essayer de sourire un peu et d'être un peu positif, vous donnez des perspectives, vous nous secouez un petit peu en disant on peut penser le monde autrement, on peut notamment vous citer les travaux de l'anthropologue canadien Jérémy Narbaï, qui donne clairement envie de consommer de l'ayahuasca, hein, honnêtement, une tisane à base de liane que l'on consomme beaucoup chez les peuples amérindiens, que vous avez consommé vous-même, Dominique Bourg, mais je ne sais pas si on peut en parler. Et donc, le fait de consommer l'ayahuasca, ça permet d'aller dans une autre dimension.
Alors,
on va dire.
Anne-Cécile, on va déjà conseiller au lecteur de lire le livre.
Oui, avant la tisane. Voilà. D'accord.
Bon, et en fait, ce qu'on essaie de penser dans ce livre avec Sophie, c'est vrai qu'il y a un côté positif et presque optimiste, en dépit effectivement de l'état de la planète aujourd'hui, c'est de dire qu'en fait, le mécanisme lui-même, ce mouvement de pensée, là on n'a pas parlé du paradigme de la pensée comme mouvement collectif, mais on est assez persuadé de ça, nous sommes dans un mouvement qui ouvre vers autre chose, qui ouvre vers un dépassement, et qui ouvre un type de civilisation très différent. Et ça, c'est le côté, si vous voulez, positif de ce livre. On ne se ferme pas sur le dernier homme. On pense qu'il y aura encore des êtres humains et que même si on va devoir développer une civilisation différente sous tabassage climatique, on va quand même finir par la développer. Et cette civilisation, elle sera fondée sur une forme de retour à une harmonie plus grande avec le vivant. Et en fait, elle est déjà présente dans les plis de la société actuelle. Il faut simplement la voir. Mais elle pousse de partout.
Vous êtes d'accord avec ça, Sophie Swatton ?
Ah oui, je suis complètement d'accord, sans avoir consommé la plante que vous évoquiez.
Tant que ce livre ne soit pas produit.
D'hallucinations complètement qui peuvent s'expliquer d'ailleurs pour avoir un peu d'humour, mais je suis complètement d'accord. Et c'est là où précisément les traditions des peuples premiers, sans que nous ayons à reproduire la même chose, hein, mais peuvent nous inspirer sur la manière que nous avons d'apprendre, sur le savoir lui-même, puisqu'on parle de penser, sans se mettre à la place d'une plante, mais comment nous-mêmes, avec notre propre cerveau, notre propre fonctionnement et nos neurosciences aussi, on peut arriver à découvrir d'autres mécanismes qui nous fassent un petit peu dérailler quelque part. Et c'est là où je trouve ça intéressant pour fonder effectivement un nouveau paradigme et repenser une civilisation avec d'autres prémices, sans changer les hommes, mais partant de leur structure, partant par de l'imagination, des croyances, des désirs, de ces pulsions. Et personne n'a envie d'une société délétère et de devoir se restreindre dans un monde apocalyptique. Donc, encore une fois, la question de l'anticipation, de la puissance créatrice, pourrait arriver un petit peu plus en avant que c'est le cas aujourd'hui.
Ouais, bah on est loin quand même du consumérisme à l'occidental où l'achat des dernières baskets à la mode sont, comme vous l'écrivez, le mode dominant de la réalisation de soi, hein, mais auquel une grande partie du monde aspire quand même, Dominique Bourg, aujourd'hui.
Alors, c'est compliqué. C'est-à-dire que si on regarde dans nos pays, on continue à le faire. Mais la magie de la consommation qu'on voyait, par exemple, dans les films des années 60, encore quand Seguela disait, voilà, si vous n'avez pas votre Rolex, vous n'êtes pas un homme accompli.
À 50 ans, vous avez raté votre vie.
Vous avez raté votre vie. Et ça, effectivement, c'était la spiritualité moderne. Et en fait, on n'y croit plus. On sait très bien qu'on ne réalise pas sa vie avec ça. Alors, c'est vrai que dans une partie du monde, il y a un accès à la consommation, mais d'une certaine manière, j'ai l'impression que ça va être aussi accéléré. La désillusion va être assez forte. Et on voit d'ailleurs dans la jeunesse, on parlait tout à l'heure de la jeunesse avec l'enquête du Lancet, alors pas tous les jeunes, mais il y a une partie de cette jeunesse qui est sur autre chose, qui a pas du tout, si vous voulez, la même empathie avec la possession des choses matérielles. Et quand on parlait tout à l'heure d'émergence d'une nouvelle civilisation, c'est très concret. C'est la permaculture, c'est l'agroforesterie, c'est l'agroécologie, c'est la naissance des droits de la nature, c'est les tentatives de faire fonctionner différemment l'industrie en la biosourçant, en pensant que l'acte économique, bien, c'est jamais qu'un aspect dans un acte beaucoup plus large. C'est l'idée des low-tech. Les low-tech, c'est pas forcément des choses très simples. C'est le fait que construire un objet technique, c'est penser aux effets dans la durée, aussi bien pour la société que pour les écosystèmes. C'est la critique, justement, la mise en évidence dès les années 30 du siècle dernier de l'incomplétude de nos connaissances. C'est, on le montre dans ce livre, comment on peut aujourd'hui reconnaître un accès à une forme de pensée très précise et complètement époustouflant avec certains savoirs chamaniques, etc. C'est Thomas Saraceno et son art avec les araignées. C'est-à-dire, partout, vous avez des éléments qui vous montrent qu'une autre manière de vivre et aussi une autre manière aussi d'organiser la société est en train d'émerger. Et là, c'est en quelque sorte écrasé à la fois par le côté dramatique de l'actualité, sans compter une ambiance en France assez particulière, avec une extrême droite, si vous voulez, sans aucune retenue. Mais ça, c'est la mousse. Derrière, il y a autre chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus profond et qui est international. C'est ça aussi qui est intéressant.
Il faut gratter la mousse, Sophie Swatton, et aller voir en dessous toutes les émergences, tout le bouillonnement des bactéries, j'ai envie de dire, qui sont dans le sol.
Écoutez, complètement, si on est dans le schéma cartésien, il y avait quand même à la base une métaphysique, hein, dans les racines, on est en plein dedans. Et j'ai envie de dire que sous la mousse, dans tous les mouvements en transition, dans cette nouvelle jeunesse, hein, qu'évoque Dominique Bourg, il y a cette volonté aussi de gouvernance différente. Dans toute transition, on parle toujours de transition énergétique, mais il y a une transition intérieure. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que on est de même que dans l'économie symbiotique, hein, ou dans l'université de la forêt, comme disent les peuples premiers, dans la symbiose qui peut exister entre un arbre, un champignon, etc. Dans ces nouveaux mouvements qui émergent et qu'on peut recenser, il y a une volonté de faire différemment. Donc c'est aussi en termes de modèle économique, en termes de reliance, en termes de pensée d'interdépendance, de se savoir vulnérable et donc de promouvoir la coopération. Et ça se voit de plus en plus. Et donc, ça signifie que le seul modèle consumériste ne nourrit plus, ne suffit plus pour être la base de cette nouvelle représentation. Et j'ai envie de dire, pas une représentation purement abstraite, théorique, déconnectée, mais une représentation en acte qui part d'abord de pratique. Quand vous avez des écolieux où on fait des rituels, c'est pas qu'on y croit ou pas, peu importe, mais c'est une manière de remettre le rituel au centre et une autre manière de se respecter, de poser des actions, de faire respecter une parole et de considérer le sol, les forêts, les champs, les animaux et d'être dans quelque chose de très différent de ce au quoi on assiste à l'heure actuelle avec des bâches sur lesquelles on peut implanter n'importe quoi, des machines, des porcs qui vivent dans un mètre carré, on ne peut même pas dire le mot vivre, qui sont là que pour notre consommation. Mais dans cette nouvelle émergence, c'est vraiment une autre relation à l'ensemble du vivant qui se met en œuvre et on le voit de manière très concrète et dans des actes de mise en œuvre, même de modèles économiques très différents du paradigme de lucrativité absolue qui est toujours promu. Les gens veulent autre chose et ils mettent en œuvre autre chose.
Oui,
et
alors ça, vous le montrez bien à travers votre fondation, puisque vous mettez en place sur différents territoires ce que vous avez appelé, c'est vous qui avez créé ce concept, le revenu de transition écologique, justement parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie de s'investir dans cette transition écologique. Mais bon, on n'a pas toujours le temps et la possibilité de le faire. Donc peut-être qu'il faudrait institutionnaliser ce revenu de transition écologique.
Je pense que c'est un des leviers d'action parmi d'autres, bien évidemment. Mais énormément de personnes aujourd'hui s'organisent sur un modèle coopératif qui n'est pas du communisme. Hein. Souvent, on nous dit « oui, mais c'est bisounours, c'est facile ». Non, pas du tout. C'est un modèle inclusif sur des territoires où on fait participer autour de la table des collectivités, des communes, des départements, des ONG, des acteurs, des associations, le monde du social également, pour mettre en œuvre différemment des circuits courts. Quand on parle de sécurité alimentaire, ce n'est pas un concept creux, c'est comment ça peut partir, effectivement, de la permaculture, arriver dans les cantines scolaires, être ensuite repris dans les mairies, repris par des agriculteurs qui veulent transiter en bio. Et toutes ces personnes-là, aujourd'hui, ne peuvent pas vivre de leur activité. Elles ont besoin d'une aide, d'une formation adaptée, elles ont besoin d'être mises en réseau. Donc oui, effectivement, si on pouvait institutionnaliser une forme d'aide pour ensuite économiser sur des réparations. On parle de réparations climatiques, de dégâts, etc. Mais si on pouvait penser en amont une transformation des emplois, une transformation de la formation pour que les entreprises puissent elles-mêmes engager et mettre en œuvre tout de suite, sans attendre des COP 26, 27, 28 et 30, une mise en œuvre directement de critères intelligents pour prendre en compte les limites planétaires, oui, ce serait une action importante.
Et puis Dominique Bourg, vous le dites, vous l'écrivez dans ce livre à quatre mains, bon, l'intelligence, c'est très très bien l'intelligence humaine, mais l'instinct, c'est-à-dire qu'on a besoin de retrouver un peu notre instinct, alors pas pour se replier sur nous-mêmes et aller vers des extrémismes et rejeter l'autre, mais au contraire, un instinct beaucoup plus ouvert qui nous rappelle que finalement, chacun d'entre nous ne fait que passer sur Terre, qu'on est le fruit d'une évolution, que derrière nous, il y a une suite et que donc, il faut peut-être se repositionner un peu comme ça, non ?
Oui, alors on fait même un petit peu plus, c'est-à-dire ce qu'on essaie de montrer avec la notion de paradigme, c'est que l'opposition entre un instinct, quelque chose qui part derrière vous, en deçà de vos représentations, vous amènerait à faire quelque chose, et de l'autre, une pensée transparente, comme disait Descartes, qui se possède elle-même depuis son origine, ça c'est un fantasme. En fait, nous autres êtres humains, on pensons pour les grands mouvements de pensée qui créent les civilisations, on pense essentiellement de manière collective. Et en fait, le mécanisme en est une très belle illustration. Personne n'a décidé d'être mécaniste. C'est en fait une espèce, si vous voulez, d'auto-affirmation. Et vous avez différentes figures savantes de l'Europe de la fin du XVIe qui ne se connaissent pas au départ, qui n'ont aucune relation entre elles. Et cette idée s'impose à ces gens. Donc, si vous voulez, cette opposition déjà entre pensée et instinct, quelque part, il faut un petit peu la déconstruire parce que la pensée, même la plus spéculative, même la plus abstraite, eh bien, elle est portée par quelque chose qui la dépasse. Et on essaie de montrer, en reprenant l'histoire du tissage d'un panier de Tim Ingold, comment s'enchevêtre l'activité individuelle et puis cette espèce de portage collectif qui fait monde. C'est aussi la volonté de puissance chez Nietzsche, si vous voulez. C'est cette espèce de force de création à laquelle on participe et qui nous emporte. Et donc l'opposition, si vous voulez, instinct et puis cérébralité transparente et maîtrise absolue, ça ne tient pas debout. La pensée, elle a quelque chose d'instinctif, en fait.
Et est-ce que cette pensée collective, vous pensez, c'est le cas de le dire, oui, être en train de se construire pour aller justement vers une planète habitable pour tous dans l'harmonie ?
C'est effectivement ce qu'on essaie de montrer. Et moi, j'aime beaucoup donner cet exemple de la permaculture, si vous voulez, parce que quand vous regardez une agriculture classique, ça consiste à se séparer de la nature. Il faut la neutraliser. Alors, on va déjà faire un agro-système, c'est-à-dire qu'on va planter une seule espèce. Donc, du coup, elle est immensément fragile. Ça ne marche plus, vous avez besoin d'intrants, vous avez besoin de pesticides, etc. Et l'idée de permaculture, c'est de comprendre comment les écosystèmes fonctionnent, l'accompagner, et là, vous n'avez plus besoin d'intrants, vous n'avez plus besoin de pesticides, tout simplement parce que vous reproduisez un écosystème dans sa pluralité. Donc et du coup, la relation technique, la relation à la puissance, tout change. Et en fait, si vous voulez, de manière générale, les systèmes agricoles ont toujours précédé les sociétés. Et si on dénombre le nombre de sociétés que vous avez depuis la néolithique, il y en a quatre, et à chaque fois est associé un type particulier d'agriculture. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a une nouvelle agriculture très profonde, est ce que je viens de dire, si vous voulez, métaphysiquement totalement différente, elle est là. Elle est en train d'éclore, et quand vous voyez le mouvement de la permaculture, les gens ont bien compris que ce n'est pas qu'une technique agricole, c'est une façon de se situer dans le monde. Et on peut construire une industrie permacole, on peut peut-être commencer à construire une science permacole, par certains côtés, c'est un peu ce à quoi on s'essaie, etc. Donc c'est un mouvement très très profond, on est au début, et on essaie, si vous voulez, d'en souligner les premières lignes de force.
Voilà, je vous avais promis au début de cette émission qu'on allait finir avec de l'espoir. Et bien voilà, merci beaucoup Dominique Bourg. On y croit, on va progresser tous ensemble collectivement. Les bases sont posées, en tout cas c'est ce que vous démontrez avec Sophie Swatton dans votre livre Primauté du vivant, essai sur le pensable. C'est publié aux Presses universitaires de France. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci à François Porcheron pour la réalisation et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons avec grand bonheur. Demain, même planète, même heure.